corporal.
Vous écoutez La Croche-Oreille.
Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille. Heureux de vous retrouver à l'antenne de la radio sonore à Québec, CKRL 89.1, sur les ondes et ckrl.qc.ca sur le web, parce qu'on peut nous écouter sur le web. Alors, La Croche-Oreille, c'est l'émission consacrée aux arts sonores et aux expérimentations musicales peu conventionnelles, inédites, et c'est dans cette veine que je vous propose ce soir une heure de magnifique sonorité assortie des projets de l'artiste, musicienne, compositrice et exploratrice sonore Ida Toninato. On dit d'Ida qu'elle est guidée par un fort désir d'immersion dans le son et dans l'espace. À voir ses performances, on dit que son jeu est d'une grande sensibilité. À l'écoute, son jeu au saxophone est électrisant. J'ai eu la chance de la rencontrer ici, à Québec, entre deux accalmies virales. Une rencontre chaleureuse, bourrée d'intelligence, à l'image de sa démarche et de son travail artistique. Alors ce soir, parole à l'artiste Ida Toninato. Ida Toninato, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer.
Bonjour Gaëtan, très heureuse de te rencontrer aussi.
Ida, tu es une musicienne, compositrice, performeuse, je dirais ça comme ça. Et j'aimerais ça connaître un peu ce qu'a été comme le moment d'éveil dans ta carrière, d'éveil à l'expérimentation sonore. Parce que je décode que tu as une formation probablement classique, que tu as travaillé dans le monde de la musique classique en tant que telle. Et puis là, il y a ce revirement, cette rupture peut-être par rapport à cet univers-là. Et là, il y a tout ce volet de l'expérimentation. Là. J'aimerais ça t'entendre là-dessus.
Quand est-ce que tout a commencé? Écoute, c'est une bonne question. La réponse qui me vient instinctivement, je pense assez tôt dans mon apprentissage du saxophone. Tu sais, comme le saxophone, il y a effectivement un cursus de musique classique, mais c'est pas vraiment un instrument qui fait partie de cette période de l'histoire de la musique. Donc, on aborde quand même très tôt le répertoire contemporain, avec des techniques étendues, des multiphoniques, des slabs, des techniques percussives avec les clés, des suraigus. Et c'est un univers sonore qui m'a toujours interpellée depuis que j'ai commencé à entendre ça, que j'entendais mon prof en faire. J'ai toujours été curieuse. Et curieuse aussi d'en faire. Puis, quand je suis rentrée au conservatoire à Strasbourg, j'ai eu beaucoup envie de collaborer avec des compositeurs qui étaient dans le département de composition en musique contemporaine. Et donc, c'est un parcours qui s'est fait vraiment à travers les collaborations avec des compositeurs pour découvrir qu'est-ce que l'instrument avait dans le ventre, puis comment est-ce qu'on pouvait pousser telle technique plus loin, c'était quoi toute la palette de sons qu'on pouvait aller chercher. Et pendant un bon bout de temps à Strasbourg, ça a été principalement en musique instrumentale pure. Et quand je suis arrivée à Montréal, à l'université, donc pour faire ma maîtrise, et puis après mon doctorat, j'ai eu un coup de foudre pour le département de musique électroacoustique. Et c'est là que j'ai commencé à expérimenter plus avec des bandes, de la spatialisation, du traitement en temps réel. Donc à chaque fois, c'était de rentrer dans l'univers d'un ou d'une compositrice, puis de me familiariser avec la manière dont ils entendent le son, comment est-ce qu'ils traitent le son dans l'espace, la diffusion, la propagation, tout le discours musical qui se créait avec ça. Et puis je pense que ça a mené quand même assez naturellement à travailler dans des espaces réverbérants. Donc je suis passée de système de diffusion sous haut-parleur à des endroits qui avaient de la réverbération dans lesquels j'allais jouer pour voir qu'est-ce que l'espace disait en retour.
Il y a tout de même cette particularité que ton instrument de travail, en tout cas, demeure le saxophone. Et ça, c'est peu courant, je dirais, dans le domaine, dans ce domaine de l'expérimentation sonore en tant que telle ou de l'expérimentation musicale. Est-ce que j'ai raison ou je me trompe?
Ben, je sais pas. Je crois qu'on expérimente avec les outils qu'on a dans notre boîte à outils. Moi, c'est le saxophone, principalement le saxophone baryton. Ça fait quelque temps que j'ai pas touché d'autres saxophones parce que on dirait que c'est le seul qui me parle depuis quand même assez longtemps. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont des démarches expérimentales avec leurs instruments respectifs, que ce soit un piano, une boîte à rythme. Je crois que ça définit plus une attitude d'esprit peut-être, ou une curiosité, une spontanéité qu'un style.
Ida, si tu veux, pour donner une belle idée aux auditeurs du travail que tu fais, on va écouter un extrait de cet album qui s'intitule Strangeness of Gratitude. Ingratitude. Et on écoute ça et puis on revient ensemble sur ton parcours artistique, ta démarche. Thank you. Ida, on vient d'entendre une pièce de ce projet qui s'intitule Strangeness is Gratitude. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre? Parce qu'il est tout de même mystérieux, un peu énigmatique, il est très beau. Je ne saurais pas trouver la traduction française.
Ben, tu sais, cet album-là, c'était... Je pense qu'il est né... L'idée en est née dans au cours d'une résidence à l'église du Jésus, à Montréal. Qui a, je ne me rappelle plus, je pense que c'est entre 4 et 7 secondes de réverb. Bah, plutôt 4, quelque chose dans le genre. Et c'est là que je me suis dit, ah, je vais travailler avec la réverb, puis c'est ça qui m'a permis de revenir à un matériel musical beaucoup plus simple que ce que je faisais en musique contemporaine écrite. Et je pensais que j'allais l'enregistrer là-bas, donc à l'église. Puis, à la même époque, j'avais des répétitions dans un bâtiment... dont je peux pas donner l'adresse parce que j'avais pas l'autorisation d'y aller. Et je me suis promenée dans la cage d'escalier, puis j'ai remarqué que dans la cage d'escalier, il y avait beaucoup de réverbération. Puis je suis montée, touc, 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 et j'ai atterri dans un étage où il y avait rien du tout, comme un espèce de 2000 pieds carrés de béton, avec rien, avec pas de mur, avec juste des baies vitrées tout autour. Là, j'ai continué à développer les compositions, et j'ai invité des amis à venir l'enregistrer. Donc la gratitude... Ça fait vraiment beaucoup partie de cet album pour avoir un espace dans lequel j'ai pu aller un peu incognito, tu sais, à des heures indues de la nuit. La gratitude d'avoir des gens avec qui collaborer, qui ont enregistré, puis qui m'ont prêté leurs oreilles pour me dire comment est-ce qu'eux, ils entendaient le son dans l'espace à telle distance, qu'est-ce qui fonctionnait bien. Tu sais, ça a vraiment été un dialogue avec les preneurs de son. Puis l'étrangeté, bah, parce que ça s'est fait au hasard dans le détour d'une cage d'escalier dans un endroit... un peu étrange, un peu à la marge. Donc, j'ai juste collé les deux mots ensemble, puis voilà.
C'est un beau titre et on va en écouter un autre extrait de cet album qui est magnifique, qui est ton premier album, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, on écoute ça.
Avec des signes, cette fois.
Oui.
Oh.
Un son, petit pied, un autre signe. Je sais, tu m'accordes.
Ida, on vient d'entendre un autre extrait de ton premier album, Strangeness is Gratitude, tout ça lié au travail que tu fais en collaboration avec les gens qui t'environnent, tout ça. Sur le plan de la création en tant que telle, qu'est-ce qui est crucial pour toi dans ton travail de compositrice, quand tu crées une œuvre, qu'est-ce qui t'alimente, comment ça démarre un projet de création dans ton univers? Comment ça se passe?
Ah, merci de poser la question, Gaëtan. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est à chaque fois la même chose, mais c'est sûr qu'il y a des sons que j'aime beaucoup explorer, comme par exemple, j'adore le registre grave. Mais je te dirais que c'est souvent un dialogue, soit avec un son que j'ai envie d'approfondir ou de creuser, ou alors avec un collaborateur, une collaboratrice, comme par exemple le projet qu'on a fait avec Pierre-Luc Lecourt. Un dialogue avec un espace, avec l'acoustique et la sonorité d'un espace, un dialogue avec une idée. Mais je crois que l'étincelle à chaque fois est différente.
Écoute, on va aborder un deuxième album que tu as produit qui s'intitule We Become Giant. Giants au pluriel, je pense, ouais. N'est-ce pas? Et on va écouter cette pièce et on revient sur cet album en tant que tel parce qu'il y a derrière ce titre un projet fort intéressant. Alors, on écoute un extrait de cet album We Become Giants et on revient. Thank you. voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de l'artiste Ida Toninato. Alors, restez des nôtres. Je vous reviens avec Ida après un bref battement promo.
CKRL, communication, culture.
Vous écoutez La Croche-Oreille.
Alors, on est de retour, c'est La Croche-Oreille jusqu'à 22h depuis les studios de CKRL 89.1. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que les quelques 250 émissions archivées jusqu'à maintenant. Alors, au programme ce soir, une belle rencontre, une belle conversation avec l'artiste sonore, compositrice et performeuse Ida Toninato autour de quelques-uns de ses récents albums et de ses collaborations avec Pierre-Luc Lecourt et Jennifer Tissin, notamment. Alors, après s'être frotté au répertoire classique contemporain pendant quelques années, la saxophoniste Ida Toninato s'est investie à l'exploration du monde sonore à travers ses avatars musicaux, poétiques et performatifs. Ses récents albums Strangeness is Gratitude et We Become Giants, dont on a entendu un extrait, en sont une résultante probante. Ida est titulaire d'un doctorat en interprétation de l'Université de Montréal et demeure très active sur la scène musicale et expérimentale du Québec. Alors, voilà, on poursuit ensemble l'écoute de cette conversation avec l'artiste et musicienne Ida Toninato. Thank you. Ida, on vient d'entendre cette pièce-là tirée de ton album We Become Giants. Il y a une belle histoire tout de même derrière ce projet. J'aimerais que tu me racontes.
L'histoire de ce projet. Alors, en fait, j'avais commencé à me dire, ben, dans le fond, moi, ce que j'aimerais, c'est explorer différents espaces réverbérants pour différents albums. Parce que la musique qui est créée est toujours différente, dépendamment de la réverbération, de la texture, la couleur, les machins, les patatifs, enfin bref. Tous les phénomènes sonores qu'on entend, qui sont propres à un espace et qui peuvent pas exister vraiment ailleurs. Et j'en parlais avec un ami, puis il m'a dit, ah, est-ce que t'as déjà entendu parler du Tang Center for Sonic Arts? J'ai dit, ben, non. Puis il m'a dit, ben, tu devrais. Puis il m'a envoyé un article qui parlait de cet endroit. Alors, le Tang Center for Sonic Arts, c'est au Colorado, de pas très loin de Denver. Et c'est une ancienne citerne à eau. L'histoire de la citerne est vraiment drôle parce qu'elle a été créée à l'époque du chemin de fer. Des chemins de fer à vapeur, si je ne me trompe pas. Pour donc servir vraiment... Ça a été créé comme une citerne qui devait recevoir de l'eau. Quand ils ont versé de l'eau dedans, ils se sont rendus compte que la structure était trop fragile et elle ne supportait pas le poids de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Le chemin de fer n'est jamais passé par là. Donc, ils avaient cette citerne. Après ça, ils l'ont quand même utilisée comme citerne à eau pour les industries pétrolifères qu'il y a aux alentours. Mais c'est là qu'ils se sont rendus compte que la structure ne tenait pas le coup. Donc, ils ont voulu la démonter. Mais entre-temps... Il y avait des musiciens du coin qui s'étaient mis à jouer là-dedans parce qu'il y a 40 secondes de réverbération. C'est fou. C'est circulaire, c'est tout en métal. On entend le vent qui siffle quand il y a des tempêtes de vent. Puis, tout autour, dehors, c'est le désert. Donc, c'est vraiment un contraste incroyable entre un son qui est énorme, qui dure très longtemps, qui est très, très dense. Puis, quand tu passes la porte, plus rien. Le silence total. Et donc, les musiciens du coin se sont constitués en association pour pouvoir... protéger cette citerne, empêcher qu'elle soit démontée pour être vendue en pièces détachées. au fur et à mesure, ils ont construit un studio à côté, ils ont installé des micros à l'intérieur, puis maintenant on peut venir la louer pour l'enregistrer.
Et tu as fait une session de travail dans cet espace magnifique.
Oui, j'y suis allée pendant 5 jours, je pense, avec un ingénieur du son qui s'appelle Blaise Bourbon-Léonard, mon réalisateur de studio préféré. Puis on est allé enregistrer là-bas. Et on a enregistré je sais pas combien d'heures de son, on a fait fibrer des trucs, on a vraiment vraiment trippé, on a enregistré beaucoup de vent aussi parce qu'à un moment quand on était là-bas il y a eu une tempête de vent, donc c'est de jouer avec l'espace puis de jouer avec tous les sons qui circulent à l'intérieur de l'espace parce que ça en fait la richesse. Puis après ça on est retourné en studio puis on a écouté tout ça et on a essayé de créer un espace artificiel qui répondait à l'espace naturel qu'on avait enregistré. Et le We Become Giants, bah, c'est cette citerne tellement énorme, tellement gigantesque, qui inspire, en fait, qui prend le son et qui le fait devenir tellement grand que ça devient beaucoup plus grand que nous-mêmes. D'où le titre « On est déjà en devenir ».
Oui, d'un très bel album. On en écoute un autre extrait de cet album intitulé « We Become Giants ». Qu'est-ce qui t'inspire, Ida, dans le travail de création, au sens très large, là? Est-ce que tu es à l'écoute de ce qui se passe autour, ou dans le domaine artistique, est-ce qu'il y a des démarches qui sont pour toi là, le reflet de ce qui t'amène à créer des œuvres, soit musicales, soit sonores?
Mais je pense que c'est un petit peu ce qui se passe autour, ce qui se passe à l'intérieur, puis je crois que c'est surtout un désir de communication. Et un désir de proposer des choses à expérimenter. Tu vois, l'année dernière, j'ai commencé à m'intéresser à la réalité virtuelle parce que, pour moi, c'est un médium vraiment fantastique pour inviter les gens à rentrer dans les espaces dans lesquels je vais enregistrer et pour les inviter à s'approprier aussi le son, à comprendre les trajectoires du son, puis à inscrire leur curiosité ou leur spontanéité à l'intérieur de l'œuvre pendant qu'ils interagissent avec. Donc, c'est... Je pense que pour moi, c'est un désir d'expérimentation et de vivre des choses. Puis c'est un besoin fondamental de les communiquer et de proposer ces choses-là autour de moi.
Ouais. Et le travail de collaboration demeure important tout de même pour toi dans tout ce processus. Je pense à tes collaborations. On t'a parlé de ton ingénieur de son, le travail que tu as fait avec Jennifer Thyssen, entre autres. C'est important, ça, d'avoir des complicités.
Ah oui. Ça, c'est crucial, phénoménal et irremplaçable. J'ai une collaboration avec Jennifer Thyssen, donc qui joue l'alto et la viole d'amour. J'en ai une avec Anna Dallara-Mayak, qui fait des électroniques. Blaise, comme je te le disais, c'est un de mes collaborateurs préférés, réalisateur de studio. J'en ai une avec le cinéaste Frédéric Thaler-Tremblay, avec Chantal Dumas. Parce qu'en fait, chaque collaborateur est tellement unique et apporte sa manière aussi d'entendre et de créer le son et d'interagir avec. Et à chaque collaboration, je me sens plus riche, plus ouverte aussi à toutes les possibilités qu'il y a dans le sonore.
Ida, tu as réalisé un projet récemment, une performance et aussi un accompagnement, je dirais, dans le cadre d'une exposition de Cynthia Girard-Renard. Ça se passe à la Fonderie Darling. Et c'est un projet qui me semble être un peu en parallèle de ton travail de compositrice ou d'interprète, de performeuse. J'aimerais que tu m'en parles un peu de cette expérience performative, je vais dire ça comme ça.
Alors, à la base, c'était censé être une performance, mais à cause de, tu sais ce qui s'est passé l'année dernière, ça a été une pièce électroacoustique, donc qui a juste été diffusée sur le web. Donc, c'est une pièce qui s'intitule Écouter les abysses. Non, Écouter les profondeurs.
Ça s'appelle Écouter les abysses.
Et c'est, ça a été une commande de la commissaire Ji Yoon Han, donc de la Fonderie Darling, à l'automne et à l'hiver 2020-2021. À la Fonderie, il y avait une exposition de l'artiste Cynthia Gérard-Renard qui s'intitule « Les cétacés du Saint-Laurent ». Et c'est une exposition donc sur les cétacés avec une reproduction, entre autres, à grandeur nature, d'une baleine à bosse. Donc, il faisait toute la Fonderie Darling. Je ne sais pas si tu es déjà allé là-bas, mais c'est comme un rectangle, c'est vraiment fait sur la longueur. Puis la baleine prenait quasiment toute la longueur de la Fonderie. Magnifique, en papier mâché. Et Ji Yoon Han m'a proposé de faire une œuvre qui répondait un petit peu à cette exposition des cétacés du Saint-Laurent. Puis moi, j'ai trippé sur la baleine parce que j'adore les baleines. Et donc, j'ai pu avoir accès à la Fonderie et établir comme un espèce de dialogue. Bah, plus de l'ordre de la perception avec cette baleine que j'ai passé beaucoup de temps à regarder, à observer, à marcher en dessous, à regarder dans les yeux. Et j'ai écrit une œuvre qui s'appelle donc « Écouter les abysses » avec beaucoup de sons, des sons de souffle, des sons de battement de cœur, dans laquelle j'avais envie d'emmener l'auditeur de plus en plus profond dans l'océan. Donc c'est une pièce qui est très dense, très dans les graves, très texturée, avec comme un espèce de souffle qui de temps à autre s'emballe, parce que c'est l'exposition de Cynthia Gérard-Renard fait beaucoup référence à la pollution, puis à la manière dont on est en train de démolir la faune océanique. Et donc dans cette pièce, il y a comme une espèce d'angoisse perpétuelle d'arriver à respirer, non, d'aller de plus en plus profond, d'être quelque part, puis tout d'un coup, hop, d'être entouré d'un espèce de souffle dont on ne sait pas trop d'où il vient. Et c'est... je pense que c'est un petit peu le début d'une autre page dans ma carrière, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de composer plus de manière électroacoustique, électronique. Je me forme sur des logiciels, puis j'ai envie de savoir diffuser de la musique sur un système de son. Donc c'est ouais, je pense que c'est peut-être la première pièce d'une aventure que j'espère longue.
Ouais, c'est ça, un prolongement du travail au saxophone qui débouche finalement sur de longues respirations et puis des beaux moments d'attente aussi. On va en écouter un extrait de ce projet intitulé « Écouter les abysses ». Ida, pour compléter notre belle rencontre d'aujourd'hui, évidemment que bon, la pandémie s'achève, les spectacles reprennent graduellement. Est-ce qu'il y a des projets pour toi là, qui s'amènent, soit en termes de diffusion, en création? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie artistique?
Nous, il se passe plein de choses. Mais je te dirais, le prochain rendez-vous, ce serait le 4 février à la Société des arts technologiques à Montréal. Avec Pierre-Luc Lecourt, nous allons reprendre le spectacle qu'on a fait à Mutec cette année. Donc c'est une œuvre qui s'appelle Inner Seas, les mers intérieures. Pierre-Luc qui joue de la guitare électrique, des synthétiseurs et qui fait de la vidéo audio-générative, et moi au saxophone. Donc c'est une œuvre qu'on est vraiment très heureux de reprendre parce qu'on l'a créée en résidence à Avatar, à Québec, cet été. On a bûché comme des malades, puis on est tous les deux vraiment très très fiers de cette performance-là et très heureux de la reprendre le 4 février pour le plaisir de vos oreilles à la Société des Arts Technologiques à Montréal.
Ida, on rattrape pas ça. Je vais le rappeler aux auditeurs et puis on va en écouter un extrait pour clore l'émission. Alors, grand merci de m'avoir accordé cette belle rencontre.
Merci beaucoup à toi, Gaëtan.
Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste sonore et musicienne Ida Toninato. Grand merci à Ida de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres qu'on retrouve sur les plateformes Dragon's Eyes Recording, Cool and Stuff et Bandcamp. Alors voilà, pour compléter l'émission, je propose qu'on poursuive l'écoute de cette performance réalisée avec la collaboration de Pierre-Luc Lecourt intitulée Inner Seas, qui devait être présenté à Montréal ces jours-ci. Souhaitons que le spectacle finira par aboutir sur Québec un de ces jours. Alors, sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Restez des nôtres, Mathieu Johnson s'amène avec son Rock Medium. Alors voilà, ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.